Bonjour et bienvenue dans The Storyline, le podcast qui part à la rencontre des experts du storytelling et des créateurs de contenu. Je suis Noémie Kempf et deux fois par mois, j'invite un ou une experte du storytelling et du marketing pour décrypter les stratégies qui font le succès et la désirabilité des marques. Chaque épisode se concentre sur un cas d'usage concret ou une industrie spécifique. Si vous souhaitez aller plus loin, The Storyline, c'est aussi deux fois par mois une newsletter qui reprend le sujet abordé durant l'interview et l'approfondit. Dans la newsletter, je vous offre des outils, des ressources et je vous partage des références qui vous permettront de creuser les sujets qui vous intéressent. Je vous invite donc à vous y inscrire à l'adresse thestoryline.substack.com. Aujourd'hui, on rencontre Olivier Lacoste, Head of Creative Strategy chez Blank, l'application tout en un des indépendants qui propose un compte professionnel et une palette d'outils de gestion à ces derniers. Ensemble, on discute du projet de rebranding qu'Olivier a mené de A à Z pour Blank, ainsi que de sa vision du futur du marketing. Bonne écoute! Salut Olivia.
Salut Noémie.
Bienvenue dans The Storyline.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis super contente de pouvoir parler de rebranding avec toi aujourd'hui. Et on va parler un petit peu de tout ce projet que tu as mené pour Blank de A à Z. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours et de toutes tes expériences qui t'ont amené jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui?
Mais avec plaisir pour parler de moi. Non, en tout cas, merci beaucoup pour ton invitation. Moi, je m'appelle Olivia Lacoste. J'ai 30 ans. Et effectivement, après mes études à Sciences Po, j'ai fait un an en production, en fait, en télé, dans différentes boîtes de prod. Et je me suis lancée ensuite dans la pub. J'ai fait plusieurs agences parisiennes. Et dans la pub, en fait, j'ai fait plein un peu de métiers différents. Donc, j'ai une certaine vision, on va dire, de tous les projets. J'ai commencé, j'étais chef de projet. Ensuite, j'ai fait un peu de prod audiovisuelle. Ensuite, je me suis vraiment plus formée sur de la conception rédaction. Donc, c'est vraiment ça que j'aime, on va dire. Mmh. Et j'étais aussi beaucoup attirée par le planning stratégique. Et c'est vrai qu'en agence de pub, c'est assez sectorisé. Soit t'es planeur strat, soit t'es conceptrice rédactrice, soit tu fais de la DA, etc. Et du coup, je trouvais ça intéressant, l'opportunité justement que Blank m'a proposé, c'est-à-dire de pouvoir un peu allier les deux, et la strat et la créa. Et donc, c'est ce que je fais effectivement actuellement chez Blank.
Du coup, quel est ton poste exact chez Blank?
Head of Creative Strategy. Voilà, comme ça, au moins on a les deux.
en toute simplicité, c'est très bien, c'est clair. Et du coup, ça consiste en... Enfin, peut-être avant de parler du métier et du projet, est-ce que tu peux nous parler de Blank? Qu'est-ce que c'est Blank?
Ouais, Blank, donc c'est une application. Mm-hmm. C'est un compte pro pour les indépendants qui associe des services bancaires. Donc, tu reçois une carte Visa, tu as un compte où tu peux recevoir tes virements, etc. Mm-hmm. Et des services aussi d'accompagnement, de gestion, de comptabilité pour te faciliter la vie quand tu te lances en tant qu'indé. Donc effectivement, ça cible les indépendants, les travailleurs indépendants. Ça va du BTP au commerce, au freelance, à l'artisanat, aux missions de conseil, etc. Enfin voilà, toutes les personnes qui sont non salariées.
Ok. Et qui est une start-up qui a été lancée par l'incubateur du Crédit Agricole.
Tout à fait. Co-créée avec Simon Parizeau et Charles-Henri Alloncle il y a maintenant 3 ans.
Okay. Voilà. Trop bien.
Et voilà, du coup, quand je les ai rejoints en janvier de cette année, 2023, donc ça faisait 2 ans qu'ils étaient sur le marché, et le produit fonctionne très bien, mais l'idée, c'était de se dire, ok, maintenant qu'on a notre produit, qu'en est-il de notre marque, en fait, comment on a envie de parler, comment on se définit un peu plus, comment on émerge.
Voilà. D'ailleurs, c'est cool parce que petite parenthèse, et on va parler de cette définition de la marque. C'est vrai que c'est un truc, généralement, les entrepreneurs, ils vont foncer sur le produit et on est en mode genre, ok, l'expérience utilisateur, ok, le produit, les features et tout. Et c'est très bien, mais il ne faut pas pour autant négliger le marketing et la marque parce que on va se retrouver au bout de quelques années un peu à poil, entre guillemets, ou avec des stratégies d'acquisition qui s'essoufflent un petit peu si on s'est reposé sur le paid,
carrément.
Sur simplement, entre guillemets, la proposition de valeur du
carrément.
Produit.
Bah, c'est pour ça que c'était intéressant qu'effectivement, au bout de 2 ans, ils puissent se dire, justement, d'avoir eu le réflexe de se dire, ok, maintenant, comment on devient pérenne, on va dire, sur du long terme pour vraiment émerger et se construire, quoi.
Oui,
Et garder en tête que oui, c'est pas parce qu'on l'a pas fait dès le début qu'il enfin il est jamais trop tard quoi. Et donc du coup au bout de 2 ans toi tu arrives avec cette mission de penser et de refondre un petit peu la marque. Enfin la marque n'existait pas vraiment de ce que tu dis.
Ici ça elle existait. Il y avait une base on va dire de positionnement. Il y avait des choses qui avaient été faites et qui étaient intéressantes, mais c'était de réorienter et en fait de reprendre les bases justement et de se dire ok qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas et surtout comment on développe et comment en fait on creuse notre personnalité, comment on construit notre identité, comment on parle, à qui on parle précisément, on va dire. Enfin voilà, c'était tous ces aspects-là. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de rebranding, et c'est un mot qui est intéressant, mais souvent, on parle souvent de direction artistique, quand on parle de rebranding, alors on va changer notre charte graphique, notre logo, etc. Là, l'idée, c'était vraiment de poser une plateforme de marque, d'affiner un positionnement, de décliner en charte édito. Enfin, voilà, c'est tout ce travail qu'on a mené en 6 mois. Donc, non, et c'était intéressant d'avoir une technique, un mode opératoire, effectivement, qui était assez commando, quoi. On s'est tous mis en ordre de bataille pour que ce soit efficace et créer le dialogue aussi entre les différentes équipes.
Trop bien. Mais justement, ce rebranding, mais de ce que je comprends et de ce que j'entends, c'est en effet qui était vraiment un rebranding qui allait au-delà de simplement l'identité, qui allait questionner les valeurs, la raison d'être, la promesse et tout. Quelles ont été ces étapes? Comment vous l'avez mené de A à Z?
Ouais, bonne question.
Merci.
Du coup, au début, l'idée, c'était déjà de pouvoir, en interne, un peu faire des sondages, enfin, pas faire des sondages, mais prendre la température, demander à chacun ce qu'il pensait de la vision de la marque, de notre ambition, comment il percevait la marque Blanc, où est-ce qu'il avait envie de l'amener, etc. Donc, il y a eu pas mal d'entretiens menés en interne. En externe, évidemment, l'idée, ça a été de pouvoir discuter, appeler des clients pour avoir aussi leur ressenti. Puis aussi de croiser avec leur ressenti de qu'est-ce que c'est qu'être un indépendant, donc leur vie aussi au quotidien, s'attarder sur leurs besoins, leurs attentes. Enfin voilà, l'idée c'est d'attraper des insights au maximum, on va dire. Et ensuite on a croisé avec forcément un benchmark de nos concurrents, de ce qui se fait aussi aujourd'hui dans ce milieu-là, pour essayer de effectivement faire un peu ce saut, on va dire, en strat et nous amener derrière les besoins des cibles, les besoins de la marque et comment on arrive à définir justement la vision, l'ambition, la promesse et évidemment le bénéfice quoi qu'on en tire.
Ok, et alors du coup sur cette première étape, déjà petite question, donc de cette étape de recherche utilisateur, vous avez finalement créé des personas, enfin en tout cas enrichi les personas qui existaient. Est-ce que vous avez utilisé un outil précis, parce que ça c'est une question qui revient souvent chez les auditeurs et les auditrices. Concrètement, on sait ce que c'est théoriquement un persona, mais la mise en pratique est toujours un peu compliquée. Comment vous êtes passé de ces entretiens ou de ces données que vous aviez à vraiment potentiellement un profil type?
Ouais, j'ai pas forcément utilisé de persona, pour être honnête. j'ai plus interviewé plusieurs types de clients différents, on va dire hommes-femmes et dans des secteurs différents. Et j'ai essayé de croiser des similarités dans leurs réponses sur leur quotidien, leurs attentes, leurs besoins, etc. Aussi, comment ils percevaient la marque. Bon, après, la marque n'était pas forcément la plus existante possible avant, donc et aussi comment les points positifs et négatifs, donc c'est un petit peu comme ça que j'ai croisé pour arriver à voir ok, donc cette marque là au quotidien, comment elle se positionne par rapport à vous, est-ce qu'elle est c'est des trucs classiques, mais effectivement facilitateur ou accompagnateur ou plutôt amical ou plutôt expert, enfin comment elle se positionnait, comment eux ils souhaitaient qu'elle se positionne aussi. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je l'ai fait. Okay. Donc j'avais pas forcément d'outils dédiés. Voilà, est-ce que c'est bien ou pas bien, je sais pas, mais
est-ce que c'est bien ou pas bien, franchement c'est une question où, finalement, dans l'univers du marketing, je sais pas si c'est ton cas, mais dans le cadre de ma veille, je vois de plus en plus d'articles qui passent ou de tribunes qui commencent à dire que finalement le persona n'est pas forcément l'outil le plus approprié quand tu vas définir une stratégie de plateforme de marque ou même de marketing de communication, parce que c'est quelque chose qui reste assez dans les tours, assez théorique et puis un petit peu biaisé par rapport à ce que tu aimerais voir de ton client idéal et tout. Mais après, comment le remplacer, je ne sais pas, mais en tout cas j'entends de plus en plus des voix qui s'élèvent contre le persona.
Ouais, mais peut-être les deux visions sont compatibles aussi.
Complètement.
Mais c'est vrai que le persona, il peut être un poil cliché.
Ouais.
De l'autre côté, ça aide aussi à construire, à rationaliser sa pensée. De l'autre côté, interviewer des clients, c'est intéressant parce que tu suis en fait tout leur fil de pensée. Et c'est vraiment dans le ressenti aussi qu'on a essayé de créer, dans la sensibilité, même dans les mots qu'ils employaient, etc., qu'on a essayé de voir où se situer. Donc peut-être c'est en croisant les deux, je ne sais pas.
J'aime beaucoup cette vision. C'est vrai que du coup, ça te donne un cadre, une discipline, et je pense que c'est un peu rassurant d'une certaine manière, ouais. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne le sacro-saint persona qui du coup dicte.
Bon, on aime bien de toute façon tout automatiser de nos jours, non?
Certes, mais ce n'est pas des pratiques dont je suis fan.
Voilà, ouais, en tout cas, vraiment l'idée c'était on part d'un produit, donc c'est factuel, c'est fonctionnel.
Ouais.
Et l'idée, c'est comment on fait ce gap un peu plus émotionnel, un peu plus, osons le mot, inspirationnel. Mais donc, il faut forcément aller chercher de la sensibilité. Et c'est pour ça qu'on est allé aussi interviewer des clients, plutôt que de rester sur... Enfin, on a des personas établis, mais plutôt que de rester sur ces personas-là, quoi.
Bien sûr. Donc, étape 1, allez voir un peu l'extérieur, à la fois vos clients, vos prospects, les audiences que vous ciblez, et vos concurrents pour vous inspirer. Et ensuite, deuxième étape, du coup, transformer ça, et aussi passer sous le prisme de vous, vos valeurs, de votre marque, de ce que vous voulez exprimer. Donc ça, c'est la plateforme de marque.
C'est ça. Et l'idée, c'était déjà de définir des valeurs piliers, on va dire, de notre marque. Ce qui n'est pas évident, parce qu'en fait, tu as une ribambelle de valeurs qui nous font tous de l'œil, on va dire. Donc c'était de croiser avec l'interne, les attentes des clients, et puis profondément ce pourquoi Blanc existait aussi. Et une fois qu'on avait défini ces valeurs, qui sont l'expertise, forcément, parce que c'est quand même ce service-là qu'on met en avant et qu'on est solide. Le pragmatisme, justement, sur ce côté très terre-à-terre, un problème, une solution. L'idée, c'est d'aller droit au but et pas de perdre, on va dire, nos clients dans des phrases qui n'en finissent plus, comme la mienne. Hein.
C'est très clair.
La proximité, évidemment, c'est une de nos valeurs phares. C'est là où on veut aller le plus. C'est de créer du lien, de créer de la connivence avec nos clients, de les comprendre, de faire en sorte qu'ils nous comprennent aussi, évidemment. Donc, c'est dans ces sens-là. Et la dernière qu'on a appelée optimisme. Alors, optimisme au sens réalisme, on va dire, mais vraiment ce côté... on peut le faire, vous pouvez le faire, on est ensemble, on a la niaque, on a l'énergie, vraiment tout ce côté très dynamique qui va venir aussi moderniser l'image de la marque. Et une fois qu'on avait défini ça, l'idée c'était de se dire, ok, donc en gros quand t'es à ton compte, que tu penses à te lancer ou que tu t'es lancé, ce qui revenait souvent dans la bouche de nos clients et même en interne, c'était le mot réussite. On le fait pour réussir, oui, effectivement c'est assez... évident, on va dire, dans le sens où tout le monde veut réussir. Et on a essayé d'aller un petit peu plus loin. Nous, on ne veut pas juste parler de réussite. On a envie de parler de ce parcours, en fait. C'est vraiment un parcours du combattant qui a parfois des échecs, parfois des retours en arrière, parfois des doutes, parfois des hésitations. Et puis, c'est avoir la force de ses convictions pour y arriver. Et c'est pour ça qu'on est arrivé sur cette signature de marque qui est « Vous méritez de réussir ». Et c'est ce qu'on essaye d'exprimer à travers le verbe « mériter ». Donc, pas au sens... méritocratie, tu travailles bien, bravo, tu as droit à ta médaille, mais vraiment dans le sens effort justement récompensé, estime de soi aussi, fierté de ce qu'on a accompli, donc c'était tout ça qu'on voulait aussi mettre en avant à travers ce positionnement et cette signature. Et donc c'est intéressant de voir vraiment le gap émotionnel qu'on fait entre juste une application qui te facilite le quotidien et vous méritez de réussir.
Ouais.
Quelque part, on arrive mieux à différencier, on va dire, la mission de la marque et sa promesse, quoi.
Complètement.
Voilà.
Et ça, c'est un travail que tu as fait avec l'équipe et qui vous a... Est-ce que, parce que pour passer des observations de vos personas et de vos valeurs à ce discours, ce slogan, etc., comment vous vous y êtes pris concrètement? Est-ce que c'était du brainstorm? Est-ce que c'était des méthodologies précises?
Alors, moi, j'ai suivi une trame de plateforme de marque plus ou moins classique. Enfin, il y a plein de manières de faire des plateformes de marque, mais j'étais assez scolaire sur ce coup-là en ayant demandé conseil à droite à gauche. Donc, j'ai été assez rigoureuse sur les différentes étapes qu'on vient d'aborder.
Ouais.
C'est là où c'était intéressant d'avoir aussi cette double, on va dire, formation, compétence de conception-rédaction et strat. C'est que c'est là où ça peut être compliqué parce que parfois t'as envie de tout mélanger et de direct faire de la rédac avant d'avoir posé le concept, etc.
Ouais.
Ou la strat. Mais c'est aussi ça qui m'a aidé à moi-même me proposer plein de choses à moi-même, on va dire. Et ensuite, évidemment, de pouvoir échanger avec toute l'équipe pour voir ce qui se ciblait le mieux. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a fait. En mixant un peu les avis, mais aussi pas en se limitant, on va dire, dans les propositions de signature et de rédaction, quoi.
Trop bien. C'est intéressant parce que ça fait écho à ce que disait un autre invité du podcast, Arnaud Carré, qui bosse pour Ipsos et du coup qui observe pas mal les évolutions des tendances de consommation, l'évolution du marketing, des stratégies des marques et tout. Et lui, il parle beaucoup, notamment dans une tribune qu'il a signée, de marketing réaliste. De ce que tu dis, ça fait vraiment écho à ça. Ce côté, on est vraiment dans une phase où les gens veulent du no bullshit, du simple, de l'authentique, du spontané, du pragmatique. J'aime bien le mot pragmatique, parce qu'on n'entend pas beaucoup, surtout dans le marketing, versus des paillettes et des choses comme ça. Et c'est assez cool de voir à quel point vous avez finalement pris ce virage-là et ce parti, et vous l'avez intégré dans votre essence même. Donc j'ai hâte de voir, et on arrivera au sujet, quelle a été la réaction. Mais avant la réaction des gens, là tu parlais des valeurs, de l'identité, etc. Dans la plateforme de marque, il y a aussi tout ce qui est stratégie éditoriale, j'imagine. C'est quelque chose que vous avez redéfini aussi?
Carrément. On a vraiment fait étape par étape. Et effectivement, une fois qu'on avait notre plateforme de marque, l'idée c'était, ok, maintenant qu'on a un peu, on va dire, notre identité, comment on parle.
Ouais.
Donc on a défini ça avec une charte éditoriale plus ou moins classique, en repartant des valeurs, en voyant aussi comment la concurrence s'exprimait, pour avoir un lexique qui nous est propre.
Ouais.
En gros, l'idée c'est de pouvoir cibler, on va dire, les craintes des consommateurs et leurs attentes, et du coup voir comment, quelle posture on a par rapport à ça. Après, comme je le disais, et c'est assez logique, nous on est vraiment dans ce côté très dynamique, un peu fonceur, le pas de côté, et il faut c'est vraiment ce côté très start-up aussi au final, de essayons et puis on verra aussi ce que ça donne. C'est un peu ça qu'on donne à lire aussi dans toute notre communication, quoi.
Okay.
Donc on a défini tout ça, et une fois qu'on a défini tout ça, l'étape d'après c'était de se dire, ok, d'un point de vue image graphique, on va dire, est-ce qu'on chamboule tout aussi?
Ouais.
Donc c'était intéressant déjà de se poser la question, parce que
les gens sont habitués potentiellement,
etc. Ou c'est aussi, on va pas se mentir, beaucoup de travail, quoi, de changer tout ça. Donc est-ce que c'est utile, comment on le fait, et donc on a été amené à se dire, il y a des choses qu'on garde, il y a des choses qu'on ne garde pas.
Ouais.
Là, on a vraiment fait un workshop avec les directeurs artistiques chez Blanc, des directeurs artistiques freelance, de pouvoir vraiment repartir du positionnement pour trouver des pistes. Et l'idée, qui est assez logique, c'est vraiment tirer le fil rouge de tout ça. Ça a été déjà d'humaniser beaucoup plus ce qu'on pouvait avoir VS avant, d'avoir plus de vrais gens. Après, il y a toute la charte graphique aussi qui a changé pour être plus moderne, plus assumée, plus franche, plus colorée, etc. Ça nous a amené du coup à faire un shoot photo et à shooter des vrais gens, effectivement. Donc c'est un peu ce qu'on essaye de dire, c'est que c'est pas des mannequins, un vrai garagiste, un vrai chef restaurateur, une vraie vétérinaire, une vraie conseillère en marketing. Donc c'est ça qu'on a fait pour pouvoir nourrir aussi notre image. Et une fois qu'on avait tout ça, on a lancé notre campagne de com, du coup.
Pas mal. Et du coup, tous ces gens, ces vrais gens, c'était des clients de l'appli ou...
Alors ça, c'est secret professionnel bancaire. Mais bon, t'imagines bien que du coup, ils sont proches en tout cas de la marque, quoi.
Bien sûr, trop cool d'avoir... j'aime beaucoup cette pratique, parce que finalement, c'est vraiment... prendre les valeurs que vous avez écrites sur du papier glacé et les transformer en actions concrètes de com qui reflètent vos engagements et votre ligne directrice.
Et c'est vrai qu'au début, ça peut être un peu compliqué de se dire ça. Genre, ok, il y a marqué optimisme, concrètement, ça veut dire quoi? Et en fait, ça se traduit et dans la tonalité, par des clins d'œil, par des petites phrases qui vont attirer le regard ou qui vont laisser penser à d'autres choses, etc. Et par les couleurs et par la communication au global. Donc c'est intéressant de voir comment concrètement, effectivement...
Passer du concept à des applications. C'est vrai que c'est généralement ce qui fait défaut aux gens. Enfin, c'est ce sur quoi on galère tous le plus. Parce que tu peux avoir accès au savoir et à des articles en ligne ou des épisodes de podcast comme celui qu'on est en train d'enregistrer qui explique, bon, bah, pour créer une plateforme de marque, étape 1, on fait la recherche utilisateur. Étape 2, on va définir ceci, cela. Mais en effet... Concrètement, les passages à la pratique, c'est toujours un peu difficile.
Et c'est pour ça que c'était intéressant d'internaliser aussi la créa.
Ouais.
C'était vraiment de pouvoir faire ensemble, de pouvoir comprendre l'ADN de la marque de l'intérieur, de pouvoir faire en sorte que les différentes équipes puissent s'exprimer, puissent donner leur point de vue. Enfin, voilà, il y a eu, on a posé des bases et puis après, on les a partagées, on a vu comment ça résonnait aussi, on a ajusté des choses en fonction. Il y avait vraiment un truc qui vient de l'intérieur, qui, je trouve, qui est une manière de faire assez intéressante aussi.
Carrément.
Voilà.
Carrément. Et donc, du coup, bah, une fois que ça a été fait, tu disais, vous avez lancé la campagne de promotion.
Ouais, une campagne de notoriété. Okay. Bah, en fait, l'idée, c'était de se dire, OK, on a fait tout ça. Bon, bah, maintenant, il faut quand même qu'on puisse le montrer, enfin, le dire.
Certes.
Voilà. Pour pas qu'on fasse... par exemple, on a refait en même temps que tout ça le site internet. Donc, bon, bah, c'était une manière de pouvoir faire connecter tous les canaux de communication.
Mm-hmm.
Ouais, donc, pour la campagne de communication, on s'est entouré de l'agence média Avasage.
Ouais.
Et l'idée, c'était de pouvoir rebelote, quoi, du concept à la prod, lancer la campagne. On a fait du print, on a fait de la radio, on a fait du digital. Du coup, on a refait le site aussi en même temps. Donc, c'était un gros travail aussi qu'on a fait en interne.
Et ça, c'est pareil, tu vois, c'est le même type de bonne pratique que je trouve difficile à... Enfin, j'aime bien décortiquer. Typiquement, sur une campagne multicanal, ça se dit comme ça, multicanal.
Oui, allons-y.
Protéiforme, voilà. Je connais des mots compliqués. Comment est-ce que tu organises ta pensée et ta stratégie? Est-ce que tu pars d'un nombre très limité de slogans, d'éléments, de messages clés à faire passer dans le cadre de la campagne, avec des objectifs précis, et ensuite tu déclines plutôt en format, en contenu, en canaux, en date de publication, etc. Enfin, comment ça marche? Ça me paraît tellement... parce que finalement, une campagne de lancement, c'est, c'est tout d'un coup. Et les consommateurs finaux se prennent ça en pleine face, entre guillemets. Et ça marche. Mais c'est, du coup, j'imagine beaucoup de travail. Et tu pars de... Enfin, c'est comme un entonnoir, j'imagine.
Ouais. Alors, du coup, pour reprendre, on va dire le début du début, c'est le brief. Donc, en gros, au début, on s'est plutôt dit, OK, on va aller sur de la radio pour aller toucher des cibles qui nous sont affinitaires sur certaines radios, des radios digitales, etc. Donc déjà, est-ce qu'on peut se focus sur des concepts radio. Donc à partir de là, donc voilà, vraiment de manière très rationnelle et organisée, on va dire. Donc moi j'ai fait appel à mon team DA d'avant en freelance pour qu'on puisse se mettre ensemble, faire du concept et écrire des spots, les présenter en interne pour voir si ça marchait, etc. Donc déjà c'est comme ça qu'on a sorti 5 spots radio.
Trop bien.
L'idée, hein, c'était d'installer la signature de marque. Donc, c'est ce qu'on a essayé, en tout cas, de faire. Voilà, ensuite, on s'est dit... on a eu une opportunité pour faire du print. Donc là, bah, pareil, c'était un peu branle-bas le combat en interne. C'est-à-dire, on doit faire du print. Dans 3 semaines. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on le fait? Là, on a itéré en concept. Et c'est vrai que... Là, l'objectif, il était un peu différent parce que c'est du print, j'ai plus le terme technique, mais c'est des grands panneaux devant lesquels tu passes en voiture, donc il faut que ce soit hyper clair le message.
Billboard, je sais pas comment ça veut dire.
Des 8 mètres carrés, on va dire, voilà. Et c'est vrai que du coup, il fallait que le message soit hyper efficace, hyper clair.
Ouais.
En même temps, installer la signature de marque. En même temps, comme on avait fait notre shoot photo, c'était intéressant de réutiliser cette matière-là, vu qu'on voulait parler aux vrais gens de la vraie vie, dans la vraie rue, dans laquelle il passait, devant le vrai panneau.
Absolument.
Donc c'est vrai que ça te mettait des contraintes. En même temps, les contraintes, ça te permet de t'organiser. Mais c'est vrai que c'est limitant aussi créativement. Donc
toujours
c'est pour ça que sur le print, c'était intéressant. On est resté plutôt terre à terre, vraiment pour que ce soit immédiat, on va dire. Et de l'autre côté, on a fait notre film manifeste aussi, donc qui découlait de la charte édito qu'on avait tombée. Et donc là, pareil, en fait, il faut appeler un motion designer, il faut chercher les images, il faut les monter, il y avait tout le côté prod aussi qu'on a géré, en plus du concept, de la rédac, de la DA, etc. Donc Bah pour nous aussi, c'était un peu voilà, c'était un peu tout en même temps ce
Mon
qu'on a
Dieu.
Fait. Bah ouais, il fallait enregistrer les radios au final, ouais. C'est vrai qu'on n'est pas passé par une agence, donc c'était intéressant de voir comment on arrivait à de manière assez agile en fait à se dire tiens, en fait, je connais tel studio, ah oui, tel freelance, j'ai déjà bossé avec lui. Enfin ouais. Voilà, c'était vraiment une histoire de réseau et de rencontres aussi, et c'était cool quoi. Voilà.
Pensez, vous savez, la vie, c'est des rencontres.
C'est des rencontres, voilà. C'est...
Mais c'est assez chouette parce que, du coup, par rapport à toute cette équipe qui a contribué au rebranding, tu avais des collaborateurs salariés, j'imagine, mais
ouais,
tu as aussi bossé avec des indépendants.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la structure de cette task force qui a contribué au rebranding et comment tu t'es organisé pour. Parce que c'est un peu le futur du travail, finalement, de collaborer avec des indépendants, ou on l'espère.
Vive le compte pro des indépendants, j'ai envie de dire.
C'est vrai que pour rester cohérent, c'était
non,
pas mal de...
C'est intéressant comme question, parce que, en tout cas sur le futur, mais je répondrai sur la task force aussi.
Très bien.
Mais sur le futur du travail, c'est vrai que quand j'ai commencé en agence, de manière très naïve, je me suis dit, waouh, mais pourquoi il y a autant d'intermédiaires? J'avais l'impression qu'il y avait des intermédiaires de tous les côtés, que tu pouvais pas juste être en direct avec le client, qu'en fait il y avait le chef de projet, la prod, qu'il fallait traduire ce que le client disait à un créatif, etc. Et c'est vrai que ça faisait beaucoup. Bon, après en fait tu comprends que ça a un sens et que c'est intéressant d'avoir des personnes spécifiques pour tout, mais là c'était intéressant d'intégrer cette expertise là chez le client, donc chez l'annonceur, et en même temps de parler le même langage avec des freelances créatifs. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, j'espère. mais effectivement, donc on a fait appel à des DA seniors pour nous aider. En fait, c'est juste qu'aussi, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, il y avait des personnes qui faisaient du print, il y a des personnes qui ont refait toute la charte graphique. Donc ça, c'est plus sur le site, sur tous nos autres assets. Faire du concept aussi avec moi. Donc, il y avait un DA, il y avait aussi une conceptrice rédactrice que j'ai appelée en freelance. Sur la partie social media, c'est aussi un freelance qui nous aidait à pouvoir produire tout ce qu'on a produit et capter la tonalité aussi rapidement. Donc c'était hyper important quoi. On avait un motion designer, même deux motion designers je crois. On a quelqu'un aussi qui nous a aidé, on a eu un sound designer en freelance qui nous a aidé au final on a posé une identité sonore avec les radios. Donc c'était intéressant parce que on s'est dit on va faire des radios, puis après on se dit tu fais des radios sans musique, sans signature sonore, c'est un peu tristoun. Donc du coup c'est comme ça qu'on a essayé de se dire OK, comment on crée une signature sonore aussi. Puis voilà, puis après il y a le studio son et l'agence média qui nous ont aidés, mais c'était effectivement main dans la main avec tout le monde quoi.
OK, trop bien. Ouais, mais c'est patient. Et du coup, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de désintermédiarisation dans les pratiques marketing et dans la manière dont on va avoir de bosser, qu'on soit indépendant ou salarié en entreprise et qu'on s'appuie sur des indépendants. Et du coup, et je vois aussi beaucoup de collectifs qui se forment. Alors, je ne sais pas si les indés avec qui tu as bossé, ils étaient membres d'un même collectif, s'ils se connaissaient, ou si c'est toi qui as du coup eu cette casquette aussi de chef de projet / coordinatrice.
Voilà, j'avais beaucoup de casquettes, effectivement.
Ouais, ça m'en faisait beaucoup. Donc c'est toi qui t'assurais de la cohérence finalement, du suivi de la roadmap, que chacun atteigne ses objectifs.
Ouais, vraiment le but que j'avais, c'est que tout le monde se parle. Parce qu'en fait, t'as lancé des missions, même des petits bouts de missions à chaque personne en même temps. Et en fait, peut-être que la personne d'à côté, elle avançait plus vite. Peut-être qu'en fait, ça s'est croisé et qu'on a débordé, on a fait ci, etc. Donc, c'était effectivement d'assurer aussi la coordination entre tout le monde, quoi.
Et finalement, qu'est-ce que tu retires comme peut-être apprentissage et bénéfice de bosser avec des indés et d'être chef de projet toi-même sur ce type de projet, parce qu'il est quand même de grande ampleur, versus aller consulter, bosser avec une agence pour avoir un truc un peu clé en main et tout fait?
En fait, la question, elle est un peu à double tranchant, dans le sens où, pour être honnête, moi, j'aime pas faire de la gestion de projet. Mais on va dire que t'as pas forcément le choix quand t'as envie de pouvoir internaliser. Il faut pouvoir gérer le projet de A à Z. On va pas juste laisser tomber et faire que la créa.
Ouais.
De l'autre côté, c'est hyper enrichissant et hyper satisfaisant de pouvoir faire en sorte que toutes les personnes se parlent, de voir aboutir justement toute la campagne que t'as pensé aussi créativement. Ça fait un peu dictatrice quoi, de A à Z, mais c'est intéressant de voir comment t'as pu être sur tous les fronts en parallèle. De l'autre côté, on va pas se mentir que c'est hyper agréable d'être par exemple entre guillemets juste c'est terrible de dire ça, mais juste créa, quand t'es en agence, effectivement, on te prépare ton brief, tu penses le concept, etc. Je dis pas du tout que c'est facile, hein, mais après, la prod, c'est le chef de projet aussi qui s'en occupe, etc. Donc, après, de l'autre côté, c'est-à-dire être chez l'annonceur et passer par une agence, pour le coup, j'ai jamais fait.
Oui.
Mais j'imagine que c'est vrai que c'est peut-être plus simple aussi. Il y a une certaine facilité.
Après, là, ce qu'on a... Ouais. Enfin, ça t'appartient un peu moins, le projet, quoi.
Bah là, vraiment, la plus-value qu'on voulait avoir, c'était que ce soit une campagne qui nous ressemble et qui parle aussi en interne et qui soude les gens aussi
qui
en interne.
Ouais.
Et en interne, on a vraiment fait aussi des workshops pour former tout le monde à la nouvelle identité, au nouveau positionnement.
Très bien.
Donc, c'était intéressant, vraiment, de A à Z, on a essayé de faire ça, ouais.
Et donc, quelles ont été les réactions, les retours? Quels ont été les succès, les éventuelles difficultés, si difficultés il y a eu?
Alors, c'est une campagne de notoriété. Donc, pour être honnête, ce n'est pas forcément évident à mesurer en KPI. Après, on a gagné en notoriété. Donc, ça, on est ravis.
Et ça, comment vous l'avez mesuré?
On a fait une étude. On a fait un sondage.
D'accord, très bien.
Pour de notoriété assistée. Bon, alors attention, on arrive sur la partie marketing. On a demandé un sondage et effectivement, on a gagné un petit peu en notoriété.
D'accord.
Après, l'idée, c'est de continuer. En fait, c'est de pas s'arrêter forcément maintenant et de se dire, ok, super, on a fait tout ça. Ouais, en fait, on a fait tout ça, mais une fois de plus, c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour nos clients, c'est pour être pérenne. Donc, l'idée, c'est que maintenant qu'on a un chapeau et qu'on a ce positionnement, va falloir pouvoir nourrir les communications au quotidien et au fur et à mesure, quoi.
Ouais.
Mais voilà.
Comment tu maintiens ce momentum?
Bah, un des indices, parce qu'on ne peut pas tout révéler, mais un des indices, en tout cas, c'est effectivement cette authenticité, cette proximité. Donc l'idée, ça va être de se rapprocher de plus en plus de nos clients, de peut-être nourrir un peu plus nos communications avec du contenu qui leur est propre. Est-ce que c'est des conseils qui viennent d'eux? Est-ce que c'est des portraits d'indépendants? Enfin, il y a plein de choses à faire avec nos clients. Donc c'est d'essayer de tirer le fil sur cet aspect plus communautaire, justement, les indés entre eux aussi. Je trouve ça intéressant d'être un peu moins commercial et de leur laisser un peu plus la place pour s'exprimer aussi. C'est ce qu'on va essayer de faire.
Trop bien. Donc, ce que j'entends, si je reprends dans les termes barbares marketing, ce serait du community building, en tout cas plus de marketing inbound, entrant. Donc, créer des contenus et donner avant de demander. En tout cas, créer de la confiance, ouais. Donner la place à une éventuelle communauté, valoriser les gens, donc du user-generated content.
Qu'est-ce que c'est, barbare?
Ah, c'est horrible, je ne fais que parler en anglais. Je me fais tacler en plus à chaque
effectivement,
fois.
Effectivement, ouais. Alors on a aussi beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à continuer et à construire sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Là où, évidemment, quand on parle de communauté, on pense aux réseaux sociaux. Donc il y a encore plein de choses à faire qu'on va développer. Mais effectivement, c'est cette idée de voir, OK, aussi quel réseau, quelle cible, quel contenu pour essayer de créer ce côté plus authentique et de proximité, quoi.
Ouais. Quand tu dis ça, je pense tout de suite à Gringot, la banque verte, qui s'est vachement emparée de sa stratégie de user-generated content et qui valorise vachement ses clients, qui poste des vidéos tuto et tout sur son compte Insta et qui a un Insta qui est presque lifestyle. Alors tu te dis, c'est délirant pour une banque. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration comme ça, de marques qui font ça bien ou dont vous aimeriez vous rapprocher?
Bonne question. J'ai pas forcément réfléchi pour être honnête. En fait, je pense que c'est surtout une histoire de dosage.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai peur. Enfin, parfois, je me prends la tête toute seule à me dire, OK, si on fait trop, par exemple, de ce côté très authentique, proximité, laisser parler les clients, est-ce que ça va pas devenir fake?
Et dilué. Ouais.
Et à l'inverse, est-ce que si on parle pas forcément à nos clients, bah, du coup, on s'éloigne d'eux? Enfin, c'est assez logique. Mais donc, du coup, comment on trouve le bon dosage pour pas faire soit trop bisounours, soit, tu vois, trop entre guillemets, greenwashing ou être trop politiquement correct dans le sens trop lisse, tu vois. Et en même temps, en fait, est-ce que quand plus on essaye d'être authentique, est-ce qu'on est vraiment plus authentique ou est-ce qu'on devient plus fake? Enfin, en fait, c'est des questions qui sont un peu prises de tête, mais enfin, tu vois ce que je veux dire par rapport à ça.
Je ne dors pas la nuit. Non, mais franchement, je suis complètement d'accord et c'est vrai que c'est un sujet que je n'ai pas trop abordé dans le podcast, mais qui me questionne aussi beaucoup. Plus on va vers un marketing un peu décentralisé ou délégué aux utilisateurs, aux clients, vers du user-generated content, plus je vois des risques qui apparaissent, ou en tout cas des sujets dont on devrait débattre un peu plus ou dont on devrait se préoccuper en tant que marque ou que créateur. Il y a bien sûr le sujet de la dilution de ton identité de marque. Mmh. Plus tu laisses la parole à tes clients, à tes utilisateurs, bah, plus tu vas un petit peu brouiller les pistes entre ce qui est ton contenu promotionnel, le contenu créé par tes utilisateurs, etc. Il y a le sujet avec les communautés du communautarisme et potentiellement de la bien-pensance un petit peu. Et tu fais finalement bah, tous aller dans la même direction, penser les mêmes choses, faire des caisses de résonance de certaines injonctions ou certains types de messages. C'est vrai que c'est un peu risqué.
Puis c'est pas évident, tu vois, parce qu'en fait, nous, on peut le faire, mais tout le monde a envie de créer du lien avec ses cibles. Donc, tout le monde a envie de se rapprocher. Donc, effectivement, est-ce que du coup, si on fait tous la même chose, bah, on perd notre positionnement et,
Tu peux pas appartenir à 1000 communautés.
C'est pas évident, quoi, comme réflexion à avoir.
C'est vrai. Bah, je me demande à quoi ressemble le futur des marques, justement, dans un univers où tout le monde s'est recentré sur l'inbound et tout le monde va créer plein de contenus, des tutos, des ressources, des médias, des communautés. Ça va être compliqué pour les gens de savoir où donner de la tête.
Je pense qu'aussi, après, il y a la force du produit qu'il y a derrière, parce qu'au final, la marque, elle existe aussi grâce au produit.
On y revient, quoi. C'est cyclique. Il y a 10 ans, c'était le produit Prio. Maintenant, c'est l'identité, la marque. Mais finalement, plus que tout le monde dehors des marques
de
ouf.
C'est un peu le serpent qui se met en la queue. Mais c'est vrai que si ton produit derrière, il tient la route et qu'il est sincère et qu'il est fluide et qu'il est rapide et whatever, toutes les qualités qu'il peut avoir, c'est ça, au moins, ça ne ment pas, on va dire.
Ouais, c'est vrai. C'est une très belle manière de conclure l'épisode, je pense. Ça va donner du grain à moudre aux auditeurs et aux auditrices, je pense. Merci pour ce témoignage.
Merci beaucoup, en tout cas.
Bah écoute, c'est moi qui te remercie.
Non, c'est moi.
Non, c'est moi.
Non, c'est moi.
Bon, allez, on arrête. Allez, salut Olivia.
Salut.
Alors, qu'avez-vous pensé de l'épisode ? J'ai adoré pouvoir décortiquer étape par étape ce qui se cache concrètement derrière un projet de rebranding. Et j'espère que les différents outils et conseils partagés par Olivia vous ont inspiré et donné des idées. De mon côté, je retiens l'importance d'assumer son identité dans ses actions marketing, d'essayer d'incarner ses valeurs de manière concrète et tangible, comme Blanc l'a fait en proposant à de vraies personnes de participer à ses shootings promotionnels. Le futur du marketing sera réaliste ou ne sera pas, c'est une conviction que je porte et vous le savez. Je vous laisse réfléchir à ça et je vous dis à très vite dans The Storyline.